Bonjour Marie-Dominique Langlois. Alors, vous présentez la semaine prochaine une journée de présentation sur le thème de l'exploitation minière canadienne au Guatemala et la criminalisation des défenseurs des droits humains. On va d'abord passer sur la première partie, donc exploitation minière canadienne au Guatemala. On reviendra sur les droits un peu plus tard. Est-ce que d'abord vous pouvez nous expliquer un peu plus précisément de quoi on parle, parce que c'est vrai que c'est pas un sujet qui est forcément connu par tout le monde. Qu'est-ce que ça signifie quand on parle d'exploitation minière canadienne au Guatemala?
Oui, ben en fait, pour les populations, surtout autochtones guatémaltèques, ça signifie des impacts à plusieurs niveaux. D'abord, l'exploitation minière se fait de plus en plus à ciel ouvert. Donc, on parle de trous de 2,5 km² qui se font là, si on arrache carrément des montagnes qu'on va détruire pour pouvoir extraire l'or ou l'argent de la roche. Donc, en même temps qu'on crée des trous, on crée des nouvelles montagnes aussi. Pour les populations mayas qui vivent la terre, ça vient, en fait, ce style de développement-là, puisque je vais utiliser le mot en guillemets, vient entrer là en totale contradiction puis en choc avec le mode de vie des populations mayas. Donc là, on entre aussi au niveau de la culture. Les populations mayas face en fait à tout le modèle à tous les impacts au niveau du dépassement des communautés, des impacts environnementaux sur puis aussi identitaires. Au niveau de la culture autochtone maya, ont décidé en fait depuis 2005 se sont organisés puis ont tenu plus de 65 consultations populaires à ce jour auxquelles 1 million de personnes ont participé pour s'opposer à l'exploitation minière puis aussi à toute exploitation de ressources naturelles ou de projets de méga projets de développement là qui vient saccager le territoire, la terre-mère.
Mais alors justement, là, quand on parle de cette exploitation minière canadienne, en fait, c'est des entreprises canadiennes qui se sont installées là-bas, c'est ça? Qu'est-ce que ça représente?
Le Guatemala, c'est pas un pays avec une tradition minière. Dans le temps du conflit armé interne, qui a duré 36 ans, donc de 1960 à 1996, il y a eu une compagnie minière, la INCO, qui s'est établie au Guatemala, puis ça, c'était en fait à travers des massacres. Donc, les paysans qui s'opposaient à la présence se sont fait carrément assassiner par des agents paramilitaires ou des personnes à la solde de la compagnie minière. Donc, la présence minière canadienne au Guatemala est entachée de ça, mais plus récemment avec la signature des accords de paix, aussi l'avènement d'un régime néolibéral au Guatemala. On a vu en fait les investissements étrangers, surtout miniers, arriver. La compagnie Goldcorp, dont le président est à Montréal cette semaine pour parler de l'environnement des investissements. Donc, je ne sais pas si ça va être par rapport au Guatemala ou en général, mais donc c'est ça. Maintenant, Goldcorp s'est installé les populations se sont tellement opposées à la présence minière au pays que le gouvernement guatémaltèque d'Alvaro Colom, qui est l'ancien président guatémaltèque, a même imposé un moratoire en raison de la conflictivité autour du sujet. Depuis janvier 2012, donc de l'année dernière, le président qui est en place, un président de droite, un ancien militaire, a mis fin au moratoire. Puis en fait, là, maintenant, on parle là, de plus de 300 licences d'exploration, d'exploitation qui ont été octroyées. Il y en a aussi 300 qui sont en attente d'approbation. Et La plupart sont à titre plus d'exploration. Il y a très peu de mines qui sont actives en raison de l'opposition très forte des populations affectées. Ça bloquait les projets.
Ouais, comme vous l'aviez dit, les populations qui sont totalement contre se sont beaucoup exprimées par le biais de consultations populaires et ce genre d'expression. Mais alors, c'est-à-dire qu'au niveau de la loi, ces consultations populaires, elles n'ont aucune valeur, c'est ça? Les entreprises, elles n'ont aucune obligation d'écouter l'avis de la population?
En fait, ça c'est bon, c'est souvent c'est le discours, c'est ce qu'on attend de la part du gouvernement guatémaltèque. Par contre, justement, si on revient encore aux accords de paix signés en 96, ce qui a mené à la paix au Guatemala, c'était bon, il y avait une série de mesures que l'État guatémaltèque devait entreprendre, dont la ratification tout de suite après la signature des accords de paix, là, la ratification de la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail. Qui régit, en fait, qui garantit les droits des communautés autochtones et qui reconnaît aussi leurs droits à être consultés lors de projets les affectant, puis incluant aussi des politiques les affectant. Donc, cette convention-là qui a été ratifiée par le gouvernement guatémaltèque, en fait, l'oblige légalement à respecter ce droit-là. Et donc, c'est le... En fait, puis à mettre en place des mécanismes de consultation respectant les us et coutumes des populations autochtones. Et donc, depuis 1996, le gouvernement guatémaltèque n'a rien fait. Il y a aussi eu des projets du propre gouvernement guatémaltèque pour imposer des modes de consultation aux populations autochtones qui, elles, ont refusé parce que la consultation, ça fait partie de leur culture. C'est à elles-mêmes de de dénoncer les lignes directrices de ces consultations-là. Donc c'est ce qui fait qu'on est arrivé. Bon, puis là, les compagnies, ce qu'ils font, eux n'appellent pas le droit. Quand nous, on parle du droit à la consultation, eux, les compagnies nomment ça la licence sociale. Donc, la façon qu'ils vont aller la chercher, la licence sociale, c'est en cooptant des leaders sur place, en les achetant à travers la corruption. Et c'est ce qu'on voit aussi, puis c'est ce qui vient encore plus contribuer à la tension puis à la conflictivité locale.
Oui, parce que ça nous amène du coup à la deuxième partie, c'est-à-dire que, outre cette absence de dialogue et puis cette absence d'écoute, il y a même, c'est votre sujet, une criminalisation des défenseurs des droits humains. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de ce sujet-là? Qu'est-ce que ça signifie?
Oui, ben en fait, c'est ça, comme quand on a parlé tantôt des consultations populaires, ça c'était un outil aussi traditionnel des communautés autochtones, mais parce que face à l'exclusion, en fait, l'État, les compagnies, les excluent du processus de décision, elles ont décidé d'avoir recours à ce type de consultation-là. On a remarqué que les régions où les consultations ont eu lieu. C'est aussi les places où les bases, où la présence de l'armée se fait sentir. Donc, sous le couvert de la guerre au narcotrafic, on assiste à une remilitarisation du pays qui a comme pour effet, puis aussi comme objectif, d'intimider les opposants à l'exploitation des ressources naturelles au Guatemala. Nous, on a la chance de compter sur une femme qui fait partie du Conseil des peuples K'iche, qui s'est aussi qui a organisé une consultation populaire, qui s'est beaucoup qui c'est une porte-parole, une des deux, la porte-parole féminine du Conseil, et qui a plus de 22 dénonciations à son encontre. Un de ses camarades de lutte a été assassiné l'été dernier, dans la même semaine où elle s'est fait attaquer, a été victime d'attaque. Donc, on voit que le niveau d'intimidation passe à un nouveau niveau. Aussi, on va judiciariser les gens, on va faire des fausses accusations contre eux, souvent des leaders communautaires. Donc c'est des attaques continuelles, c'est un climat de terreur qui est imposé puis qui est dirigé à l'encontre des gens, des individus et des groupes qui défendent le territoire. Et on voit même que, bon, dans certains cas, des fois, c'est des gens qui sont obligés. Il y a eu des femmes qui se sont opposées à ce qu'un fil électrique passe sur leur territoire, qui ont reçu des mandats d'arrestation, puis devaient rester pendant, ils ont dû rester pendant quelques années assignés à résidence. Donc, jusqu'à ce que finalement, la Cour leur donne raison, c'est ça, leur donne raison, puis que, bon, les accusations tombent, mais ça a été pendant 2 ans de. Finalement, d'être emprisonné chez soi. On parle même de gens qui pensent à se suicider, tellement la tension est forte. Puis, le rapport si on parle aussi du rapport de force, les communautés autochtones, c'est les gens qui ont souffert le conflit armé, c'est les gens qui ont été marginalisés de toutes les façons, économiquement, politiquement, géographiquement, depuis même l'arrivée des colonisateurs. Avec l'arrivée des entreprises, des transnationales et notamment, et particulièrement des Canadiennes, les communautés autochtones parlent même d'une nouvelle invasion.
Et alors, oui, alors vous déclinez ce sujet qui est passionnant en 2 conférences donc, qui auront lieu lundi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ça? Donc, moi, j'ai vu qu'il y avait une première conférence donc, sur l'exploitation minière canadienne, la criminalisation de la résistance, et ensuite sur l'impact sur les communautés mayas. C'est un petit peu les mêmes sujets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui aura lieu durant cette journée de lundi?
Oui, en 18 mars, on sera à l'Université Laval à 1 h pour. Elisa va parler justement du contexte de criminalisation des défenseurs de droits humains. Elle va parler un peu de son cas, mais surtout de celle de son de la lutte de son peuple pour le respect des droits des Autochtones, puis la défense du territoire. Aussi, très intéressant, elle va nous parler de la cosmovision autochtone. Qui est définitivement différente de la nôtre, puis où se cristallise aussi, en fait, c'est selon elle, le conflit autour de la Terre se cristallise autour des visions distinctes et aussi même contradictoires du monde. C'est ça, à l'Université Laval, notre événement. Ça va être au pavillon Charles de Coninck.
D'accord. Ouais, et en fait, moi, je me suis demandé aussi, un peu pour terminer, est-ce qu'il y a un autre moyen de protester, de se faire entendre? Est-ce que vous agissez aussi au niveau juridique? Est-ce que vous avez d'autres actions un peu plus concrètes? Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler de ça?
Oui, tout à fait. En ce moment, depuis plus d'un an, on collecte des signatures pour en solidarité avec les populations qui luttent sur place pour exiger à l'État guatémaltèque qu'il respecte le droit des populations autochtones à être consultées. On a mis c'était sous forme de cartes postales là, qu'on ramassait, puis on a commencé très récemment là à faire connaître une pétition AVAS qui se retrouve je crois sur notre site web, mais surtout sur certainement sur notre page Facebook. Aussi, on va avoir d'autres actions à venir là, qu'on est en train de développer, que ce soit au niveau d'appeler au désinvestissement des compagnies minières présentes au Guatemala. Et ça va venir dans les prochains mois. Aussi, bon, il y a nous, on relaie différentes actions urgentes qui arrivent d'Amnesty International ou de groupes partenaires qui travaillent comme nous en solidarité avec le Guatemala. Et en dernier, on est un organisme d'accompagnement international. Donc, on fait pour les gens qui veulent aussi participer, de façon corps et âme, à cette lutte-là, il y a possibilité d'aller faire l'accompagnement au Guatemala, donc de répondre à la demande d'accompagnement international faite par les communautés. Surtout, là, on pense c'est souvent soit d'assurer une présence dans les communautés, une présence continue, ou d'accompagner les défenseurs dont la sécurité est menacée, ou encore d'être présent lorsque des consultations populaires sont organisées. Puis aussi, on développe des demandes aussi dirigées aux députés, donc que tout le monde peut aussi amener à leur propre député pour que qu'ils fassent pression sur le gouvernement canadien qui est avamment dans sa position de ne pas contrôler l'industrie minière canadienne à l'étranger et qui fait plutôt la promotion de mesures volontaires qui, selon nous, ne font que qu'embrouiller le problème. Puis vise à faire du marketing social pour les compagnies minières et non pas s'attaquer au cœur du problème, puis le droit de dire non.
D'accord, merci beaucoup. C'est parfait. Donc on peut donner donc l'adresse de votre site web, si je me trompe pas, c'est www.paqg.org. Voilà, on peut trouver toutes les informations à la fois pour les événements à venir et puis pour les autres possibilités d'action. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous et puis à bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.